podcast de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhardt. Sabrina Calvo, c'est le genre d'artiste indéfinissable. Autrice qu'il serait réducteur de qualifier de déjantée, elle travaille depuis plus de 20 ans à la construction d'une œuvre protéiforme et hors des sentiers battus. Hors du genre, hors des normes, hors des codes, Sabrina ne s'encombre pas avec les contraintes et les limites. Publié à La Volte, son nouveau roman Melmoth Furieux s'inscrit dans la continuité de ses œuvres précédentes avec un univers dystopique, un fort propos politique, un éclatement de la narration, des personnages hybrides et un style poétique nimbé de surréalisme. Menée par une couturière de 40 ans un peu désabusée et amochée par la vie, une bande d'enfants part en croisade pour mettre le feu à Walt Disney. Voilà pour le pitch, s'il est bien nécessaire de résumer un livre aussi explosif, sensible, déjanté, touchant, solaire et adelphique. Quand elle n'écrit pas, sachez que Sabrina confectionne des robes et met de la laine dans ses cheveux. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce roman, Melmoth Furieux, qui est à la fois pop, dystopique et politique ?
Je crois que la base, c'était vraiment déjà une volonté de me défaire d'une emprise, d'une certaine forme de narration et d'une certaine forme d'univers imaginaire qui avait occupé trop de place dans ma vie et dans ma tête. Et donc ça a été la première chose. Et je crois que la deuxième, ça a été de communiquer mon expérience croisée de la redécouverte de la couture et passion pour la mode et mon enracinement dans le quartier de Belleville et dans les luttes solidaires de Belleville qui m'ont montré et prouvé qu'on pouvait organiser la vie différemment, et la vie en collectivité différemment, et sans pour autant avoir des discours sur le tout collectif ou le tout individualiste, et que l'interaction entre les deux mondes et entre les deux, on va dire, niveaux sociaux était totalement possible à partir du moment où on s'en donnait les moyens. Voilà.
Ouais, donc une volonté, ouais, comme tu dis, donc politique mais discrète quand même, hein, tu fais un peu une démonstration dans ton roman de ce qui est possible en fait.
Moi, je ne sais pas si c'est discret. Ça commence à être un peu quand même un peu lyrique, mais je crois que c'est plutôt qu'une démonstration, parce que je cherche à convaincre personne. Moi, je déteste les gens qui cherchent à convaincre les gens, et je déteste les discussions. Je suis pas fan de débat en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui débat. J'aime bien les gens entiers, et j'aime bien aussi l'idée qu'on puisse tolérer les formes de contradiction aussi. Je pense pas que ce soit une démonstration. Je pense que c'est plutôt une pratique, tout simplement. Enfin, en tout cas, une documentation de la pratique, d'une forme de pratique quotidienne, de ce que ça peut vouloir dire, justement, ce dialogue entre l'individu et le collectif. Ou trouver les moyens de le faire, ou trouver la force de le faire, ou trouver le calme et la retenue pour pouvoir justement accepter nos contradictions. C'est plus ça qu'une démonstration.
D'accord. Parce que y a dans le côté démonstration, j'employais ce terme dans le sens où vraiment tu mets en œuvre, et tes personnages mettent en acte et montrent que c'est possible, à commencer par vouloir s'attaquer, alors sans spoiler, parce que vraiment j'ai horreur de ça, mais tu tapes quand même très fort sur Disney. Et pourquoi cette virulence ? Est-ce que c'est parce que c'est une icône du capitalisme le plus débordant, ou est-ce qu'il y a d'autres...
Ah non, parce que le capitalisme débordant, comme tu l'appelles, il est partout, et je pense pas que Disney soit moins pire qu'une autre grosse firme. Je pense que, enfin, par certains côtés, elle est pire, d'un certain côté, elle est moins pire. Moi, je crois que j'ai un rapport très intime à Disney que j'ai construit au long des années. Pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'architecture de Disneyland. J'ai fait beaucoup de recherches sur Walt Disney lui-même. Et je suis allé assez loin dans mes recherches, hein, je veux dire, sur le terrain, dans ma confrontation avec des témoins, je veux dire, jusqu'à envisager d'écrire une biographie à un moment donné.
Ah ouais?
Ouais, grave, c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie. J'en ai fait le sujet d'un roman en 2000, je ne sais plus quelle année, je sais plus quand est-ce que j'ai écrit ce bouquin, qui s'appelait Minuscule flocon de neige depuis 10 minutes, qui commençait déjà à toucher un peu à ce thème, mais je ne savais pas trop comment gérer vraiment. Enfin, j'étais encore, hein, dans une période, je pense, indécise. Et j'ai fait pas mal, j'ai publié pas mal d'articles sur le sujet. Pendant très longtemps, j'ai vraiment baigné là-dedans. Et il y a eu une phase de mon adolescence, enfin tardive, où je vivais vraiment dans cet univers-là. Et j'avais vraiment envie d'être embauché par Walt Disney Company, parce que je pensais que c'était là où le rêve aujourd'hui se fabriquait réellement. Donc je pense que si je tape moins sur Disney en tant que tel que sur ma fascination et ma passion et mon abdication d'une certaine forme d'autonomie à Disney. Alors, est-ce que CRDR, ça débouche sur un commentaire un peu plus large sur la société de consommation, l'industrialisation de l'imaginaire, la mise en mesure des dernières libertés psychiques qui nous restent? Oui, bien sûr, et Disney, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Disney, c'est plus la Walt Disney Company, c'est Disney, cette espèce de grand truc-là. Bah, on voit bien l'emprise que ça a culturellement sur le monde. Et je pense que d'une certaine manière, le capitalisme, après la Seconde Guerre mondiale, n'aurait pas pu se construire avec autant de facilité, n'aurait pas pu contaminer, et j'utilise ce mot sciemment, le reste du monde s'il n'y avait pas eu une forme de propagande derrière. Alors, une propagande parfois encouragée et parfois parfaitement innocente, hein, qui légitimait finalement cet ordre du monde et cette essentialisation de la nature humaine. Et pour moi, Disney est très clairement là, je dirais pas fautif, mais en tout cas, pour moi, c'est là.
Partie prenante, en tout cas, comme tu dis, de cette propagande qui est une propagande à laquelle on a un peu tous et toutes envie d'adhérer, quoi. C'est rigolo, c'est joli. Bon.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, non, mais tu as raison. Il y a un désir. C'est pour ça que je parlais d'innocence aussi. C'est parce que quelque part, on encourage aussi. Quelque part, on a envie de ce monde merveilleux. On a envie de ces sentiments-là. On a envie de ces espoirs-là et du fait que bah, les méchants sont toujours punis et que finalement, il y a toujours un espoir et que si on travaille dur et que la vie, finalement, c'est pas si dur. Et voilà. Donc, voilà, il y a tout ça qui est important et qui est, enfin, je veux dire, qui n'est pas, entre guillemets, quelque chose qu'on doit anéantir forcément. Je veux dire, garder de l'espoir.
D'ailleurs, tes personnages, ils ont de l'espoir et ils ont une âme d'enfant, dans Melmoth Furieux en particulier. Même si ils veulent, bah, ils en ont beaucoup après Disney, ils ont des rêves, des illusions encore.
Ouais.
Ils essayent de les garder, en tout cas.
Ouais, en tout cas, moi je pense que le mot âme d'enfant n'existe pas. Je pense que l'âme, c'est l'âme d'enfant. En fait, l'âme, c'est justement cette capacité d'émerveillement, et cette capacité de se dépasser, et cette capacité de penser que le monde est toujours une question de potentiel ouvert plutôt que de contraintes inaltérables et indépassables. Donc je pense que la notion d'âme elle-même est la notion de l'enfance, en fait. Et on a tous et toutes ça en nous. Alors après, est-ce qu'on ne se la fait pas tabasser? Est-ce qu'on ne se la fait pas violemment arracher? Est-ce qu'on la sacrifie pas nous-mêmes? C'est fort possible, hein, qu'il y ait tout ça, mais je pense que tout simplement, ces personnages dans ce livre sont des personnages qui sont motivés par un désir, un profond désir d'émerveillement et un profond désir de régénération à la fois personnelle, spirituelle et sociétale. Et je crois que c'est surtout ça qui est important à souligner. C'est pas tant les formes que prennent l'espoir que la vibration elle-même de ce qu'on ressent de vrai sur nos trajectoires humaines, le peu qu'on est, le peu de temps qu'on a sur cette planète, quoi.
Et c'est un. Enfin, j'ai trouvé des livres que j'ai lus de toi, que c'était une donnée qui se retrouve dans ton écriture d'un livre à l'autre, même genre d'univers, de personnages avec ce même type d'aspiration. Est-ce que c'est un choix délibéré chez toi ou est-ce que c'est ta manière d'écrire?
Ah non, c'est ma manière d'écrire, enfin c'est moi, quoi. Enfin, je crois que mes livres sont tous extrêmement proches de ce que je vis, de ce que je ressens, et de ce à quoi j'aspire aussi, quoi. Et toutes les écrivaines te diront la même chose. Je pense que les personnages qu'on met en scène dans nos romans sont des bouts de nous, alors des fragments comme des îles distantes de telle intimité, de tel aspect, de tel machin, et on éclate ça et on les laisse se gérer. Et je crois que toutes ces personnes, même les personnes un peu compliquées dans mes romans, sont des gens qui retiennent de moi ce désir d'âme là. C'est-à-dire, j'appelle vraiment ça un désir. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'âme nous soit donnée par une puissance extérieure ou par une transcendance. Je pense que l'âme, c'est tout simplement quelque chose qu'on cultive. Et moi, même si finalement je suis quelqu'un de très paradoxal et que je suis bourré de comptes, je suis bourré de biais, je suis bourré de machin et tout, j'ai très tôt compris qu'il fallait que je me dépatouille avec ça et que c'était ça que j'avais envie d'exprimer dans mon travail. Et alors oui, donc c'est parfaitement conscient, mais c'est parce que j'ai la pleine conscience de ce que j'écris. J'écris pas dans un état second, quoi. J'écris dans la présence, quoi.
Oui, avec un univers, enfin, en tout cas en tant que lectrice, j'ai clairement l'impression qu'il y a un univers qui est construit, qui est architecturé, presque un monde, hein, puisque tu es proche des littératures de l'imaginaire. Je trouve que c'est. Est-ce que toi, tu te reconnais dans le côté justement littérature de l'imaginaire, ou est-ce que tu aurais un autre qualificatif?
Ouais, c'est compliqué. C'est un vrai sujet. Moi, j'ai fait carrière. Enfin, j'ai fait carrière. J'ai fait œuvre, pour être encore plus prétentieuse, dans la science-fiction depuis les débuts de, le début depuis mes débuts, donc quand j'avais 20 ans, quoi. Parce que me suis toujours dit que ce que je voulais, c'était la liberté absolue. Je voulais pas que quelqu'un me dise comment il fallait que j'écrive. Je voulais pas qu'on me dise que ce que j'écrivais, c'était accessible ou non. Je voulais pas qu'on me dise qu'en fait, c'est pas comme ci qu'on fait. Je voulais pas qu'on me dise que le langage, c'était comme ça. J'ai une soif éperdue de liberté et spécialement dans l'art, enfin dans la création. Et pour moi, c'est pas négociable, en fait. Je contrôle absolument tout dans mes livres. Je contrôle l'orthographe, je contrôle la grammaire, je contrôle les couvertures, je contrôle les quatre de couche, je contrôle absolument tout. J'ai pas de, je laisse rien à personne. Je m'entoure de gens en qui j'ai très très confiance et qui prennent des décisions parfois pour moi et que je sais qu'ils sont des décisions éclairées. Mais il me viendrait pas à l'idée, moi, de justifier par exemple une appartenance à une langue française. Enfin, moi, je fais n'importe quoi dans mon écriture. La plupart des phrases, mes phrases tiennent pas debout syntaxiquement, quoi. Je fais des fautes d'orthographe. Parfois, je les laisse d'ailleurs parce que je les trouve plus jolies que voilà. Et donc, du coup, j'ai œuvré dans la littérature de l'imaginaire parce que tout le monde me foutait la paix, quoi. Et que jamais personne m'a dit tu devrais terminer ton livre comme ça, ou jamais personne m'a dit tu devrais écrire comme ça. Parce que j'ai pas envie de me conformer ni à un académisme, ni même à une. Voilà, parce que j'en ai rien à foutre, en fait. Et donc, du coup, forcément, mon imaginaire là-dedans entre aussi en collision avec le rationnel. C'est-à-dire que, en fait, j'en ai rien à foutre non plus de la réalité. J'en ai rien à foutre non plus de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, de ce qui est possible, de ce qui est acceptable ou pas. Donc, forcément, j'arrive sur des territoires de pur délire, de pur larcène. On a toujours dit, mes bouquins étaient complètement délirants, étaient complètement déroutants, machin, compagnie. Pour moi, ils le sont pas assez, en fait. Vraiment,
Oui.
moi je me trouve très sage, en fait, comparé à la critique qu'on fait de mes livres. Moi, j'hallucine quand on critique mes livres. Je me dis, mais vous avez vraiment pas compris, parce que ça me semble pourtant d'une banalité affligeante ce que j'écris, quoi. Et en fait, non, visiblement pas. Et c'est pour ça que finalement, je vais toujours plus loin, parce que puisqu'on me dit que je suis déroutante, autant y aller à fond, quoi. Et donc,
Oui,
plus
tant
j'y
qu'à
vais.
faire, oui.
Tant qu'à faire, autant y aller à fond. Et plus j'y vais à fond, en fait, et plus je plonge dans ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire, voilà. Mais peut-être que dans 10 ans, finalement, je serai arrivé à un stade où on dira que ce que je fais, c'est surréaliste, ou que ce que je fais, c'est de la bite littérature, ou que ce que je fais, c'est whatever, quoi. Et en fait, je m'en fous, vraiment. Tout ce que je veux, c'est pouvoir sortir des livres, que ces livres soient lus, en tout cas par les gens que j'aimerais qui lisent mes livres, et c'est le cas, et que ces livres soient des objets en tant que tel, et la littérature et l'imaginaire me donne le contrôle sur tous les horizontaux et les verticaux, toutes les horizontales et les verticales de mon travail.
Et puis cette liberté que... dont tu parles, effectivement, ça n'aurait pas été possible dans une littérature. Je sais pas. Je trouve personnellement que la distinction entre vraie littérature, ce qui va être la littérature du réel, et les littératures un peu secondaires, littérature de l'imaginaire, est complètement erronée. Mmh. Et stupide en plus, il y a des livres magnifiques en littérature de l'imaginaire et des livres sans aucun intérêt et mal écrits et tout ce qu'on veut en littérature comme il faut. Mais c'est cette quête de liberté qui, toi, te fait expérimenter, en fait. Tu recherches une liberté totale et ça devient presque un moteur d'expérimentation stylistique, d'univers, etc.
Ah oui, non, mais absolument. Moi, je me considère vraiment comme... encore une fois, je vais toujours monter la barre de la prétention toujours plus haut, mais moi, je me considère vraiment comme une artiste expérimentale. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de pas faire de l'expérimental. Pour moi, la création est expérimentale. La mise en forme du produit fini m'intéresse finalement très peu. Moi, ce que j'aime, c'est montrer les coutures déchirées. Ce que j'aime, c'est montrer les traces de bâti. Ce que j'aime, c'est montrer le processus, en fait. En fait, ce que je fais, c'est que je documente un processus de création. Et l'objet final, c'est simplement le point final sur une documentation de processus. Donc, je me considère totalement comme artiste expérimental. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est expérimental. Les cours que je donne sont expérimentaux. Les robes que je couds sont expérimentales. Les livres que j'écris sont expérimentaux. Ma vie est d'une certaine manière expérimentale. Je crois pas qu'on puisse faire autre chose, parce que sinon on tue tout, quoi. Sinon tout est, pour moi, tout est mort et tout devient finalement produit. Alors, je dis pas qu'un livre fini avec un code barre est pas déjà un produit. Je dis pas qu'à un moment donné, mon expérimentation doit s'achever pour s'incarner dans un rendu et qui va être vendu et qui est en dehors de moi. Mais bon, ça, j'imagine que c'est tout le monde, toutes les personnes qui créent ont affaire à ça, c'est-à-dire le moment où le vivant qu'on souhaite éphémère et qu'on souhaite fragile s'incarne et se solidifie et voilà. Donc, alors, il y a des endroits dans mon travail où j'arrive à garder cette liberté d'ouverture. Là, par exemple, des performances que je fais, poésie ou des choses comme ça, qui sont des choses que j'enregistre pas, dont je garde aucune trace. Donc, il y a énormément d'endroits où mes robes, par exemple, certaines de mes robes s'autodétruisent. En fait, elles sont faites pour s'autodétruire, quoi. Elles sont faites pour exister avant. Elles sont faites pour exister quand elles sont sur un corps et être drapées. Et après, elles sont faites pour s'autodétruire sur un corps et devenir ruines, en fait, quoi. Alors après, peut-être qu'on peut utiliser les ruines pour quelque chose, mais voilà. Alors après, la distinction entre les littératures, moi, franchement, je connais rien, je sais pas, j'ai pas de classification. Moi, il y a des choses que je lis qui sont de la science-fiction, il y a des choses que je lis qui sont de la littérature générale. Il y a certains livres de littérature générale qui, pour moi, sont des livres de science-fiction. Il y a des livres de science-fiction qui sont... enfin, je veux dire, pour moi, il y a pas de... On met tout ça, c'est des histoires de libraire, finalement, je dirais. Enfin, c'est des histoires de commerce, c'est pas vraiment des histoires de... C'est pas...
Oui, il n'y a pas de genre défini, distinct.
Bon, enfin, pour les gens qui ont envie d'avoir un genre défini, distinct, c'est OK de l'avoir, quoi. Moi, j'aime bien me réclamer des fois de la science-fiction, ça me fait plaisir, en fait, quoi. Tout le monde dans ce milieu de la science-fiction essaie de fuir la science-fiction, essaie de rendre la science-fiction à la littérature générale, machin, etc. Moi, en fait, je m'en fous. Je veux dire, moi, je suis à l'aise avec l'idée, l'étiquette qu'on me donne des fois d'écrivaine de science-fiction. C'est OK, surtout qu'en plus, je sais que quand je me donne cette étiquette-là, j'ai les trois quarts du milieu de la science-fiction qui me crachent dessus, quoi, en me disant, mais c'est pas de la science-fiction, machin. Ouais, mais cool, mais je suis quand même une chrétienne de science-fiction, quoi, je vous emmerde. Donc, je trouve ça assez cool, en fait, de revendiquer quelque part de l'intérêt. D'un soi-disant mouvement ou une catégorie de quelque chose qui est censé être très transgressif, qui est devenu un art bourgeois aussi et qui mérite d'être remis en cause de l'intérieur par tout un tas de stratégies.
Ou des stratégies ou des trublions dans ton genre.
Ouais, Non, parce qu'il y a une part de stratégie aussi dans ce que je fais. Je veux dire, je suis pas non plus cette clown qui danse sur un pied sur un fil barbelé au-dessus d'un abysse, quoi. J'ai aussi une stratégie, moi. Je fais pas les choses pour rien, quoi. Je sais pas que j'ai un but, mais il y a toujours un sens à ce que je fais. Donc, quand je dis que je suis une écrivaine de SF, c'est clairement de ma part. Je le clame pas de manière identitaire. Je le clame de manière stratégique, en fait, parce que je suis persuadé que la littérature de science-fiction est une littérature du présent, en fait, et une littérature profondément politique, au sens où elle parle de l'organisation de la vie en société et de justement de ce dialogue entre l'individu et le collectif, qui me semble être aujourd'hui la question qu'il faut vraiment poser pour pouvoir réussir à aligner un tout petit peu ces essentialismes et ces idéologies qui se traitent d'idéologies les unes les autres en se parant de naturalisme, en disant moi je suis la nature et toi tu es idéologique, quoi, alors que tout le monde est idéologique finalement, quoi. Voilà.
Bah, en plus, quand tu disais stratégie, effectivement, quand on te lit, on voit clairement, même s'il y a tout ce côté expérimental qui ressort, hein, je trouve, à la lecture, et je pense que tes lecteurs et lectrices aiment aussi ton style pour ça. Mais oui, on voit qu'il y a un but, il y a une réflexion, et il y a une véritable construction du récit. C'est pas juste des mots mis à la suite des autres. Ça dit quelque chose, et comme tu le dis, ça dit clairement quelque chose de notre société actuelle, même si tu parles d'un monde alors dystopique, futuriste ou d'une autre époque, ça dit quelque chose et pointe quelque chose des fonctionnements actuels.
Je veux dire, au stade où j'en suis de ma vie, si je fais pas ça, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Parce que le pur esthétisme ou le pur entertainment me paraissent être des très grosses impasses brandies par le capitalisme pour pouvoir justifier la mise en boîte des gens ou la mise en boîte des imaginaires. Et moi, j'ai pas envie d'appartenir à ça. Ça m'intéresse pas. Je préfère vivre une existence au bord des marges, parce que moi j'ai toujours été border on the edge, quoi. C'est-à-dire, je suis à la fois dans la marge et à la fois un tout petit peu dans la société bourgeoise aussi. Et c'est cette tension entre les deux mondes qui m'intéresse particulièrement, là, c'est cette espèce de numéro d'équilibriste. Parce que je pense qu'on est des êtres fondamentalement contradictoires et bourrés de paradoxes, et je pense que c'est très important qu'on reconnaisse ça si on veut pouvoir avancer un peu, parce qu'on est toujours en train de parler de posture de certitude et on est toujours en train de parler de positions très ancrées, et ça nous empêche de voir nos biais, et ça nous empêche aussi de voir les expériences des personnes en face de nous qui n'ont pas les mêmes expériences que nous et qui sont à même de mieux en parler. Et donc, du coup, je suis assez critique vis-à-vis de moi-même, finalement, parce que je m'estime faire partie vraiment de la société contemporaine, et je m'estime être assez même représentatif d'une certaine, en tout cas, d'un certain questionnement sur la nature de l'engagement et du renoncement quand on a un certain nombre de privilèges. Pourquoi les remettre en cause? Pourquoi aller chercher le risque? Pourquoi aller chercher le risque alors qu'en fait on pourrait avoir une vie parfaitement heureuse? Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de faire de la littérature politique. C'est-à-dire que je préfère être une personne politisée qui écrit plutôt que de faire une personne non politisée qui écrirait de la littérature politique, ou même pire, une personne politique qui écrirait de la littérature politique. Alors là, ça serait vraiment l'horreur.
Ça serait le bonbon.
Mais parce que voilà, justement, j'aime cette contradiction-là. Mais moi, je crois vraiment que tout artiste, enfin, j'utilise le mot de manière un petit peu, voilà, mais toute personne qui a des velléités de créer fait partie de son époque et d'une certaine manière reflète son époque et devrait refléter son époque. Et ça me plaît beaucoup, ça. Je trouve ça extrêmement touchant, cette extrême modernité, cette extrême contemporanéité. Je me sens faire partie de ça pleinement, oui.
Et qu'est-ce qui t'inspire, que ce soit au quotidien, si tant est qu'on puisse scinder le quotidien de la part artistique, notamment chez toi, qu'est-ce qui t'inspire, te nourrit?
Les fringues. Beaucoup les fringues, c'est vraiment quelque chose qui me passionne profondément parce qu'elles reflètent beaucoup, à la fois parce qu'elles sont à la, c'est le plus pur paradoxe, la mode, quoi. Et j'utilise le mode au sens vestimentaire pour le coup, pas au sens philosophique de ce qu'est la mode. Parce que je trouve qu'il y a justement un nœud de contradiction parfait là-dedans et que il est temps aussi de la dessaisir, d'arrêter de penser que la mode c'est le luxe, quoi. Non, rien à voir avec ça. C'est l'expression personnelle. C'est la manifestation de l'affect qui ne se dit pas et qui c'est la représentation des vulnérabilités, c'est des moyens de communication, c'est des moyens justement de faire dialoguer l'individu avec le collectif, à l'intérieur les individus entre eux et en eux, les individus avec le collectif, les collectifs, enfin il y a tout qui se mêle là-dedans, c'est passionnant. Et puis après, bon, plastiquement c'est sublime et narrativement, ça propose des manières de raconter des histoires qui ne sont pas des histoires qui seraient, encore une fois, des alignements de péripéties dramaturgiques, mais qui seraient, au contraire, des espèces de poèmes qui se contiennent eux-mêmes et qui se disent eux-mêmes à travers eux-mêmes. Je trouve ça extrêmement beau. Et donc, du coup, je dis les fringues, mais c'est un peu un troll, mais finalement, c'est l'angle poétique sur nos existences, parce que je suis persuadé que ce qui fait vraiment la spécificité de l'humain, c'est la poésie, quoi. Enfin, sa capacité de créer du sens à partir de rien. Donc c'est ça qui m'inspire. Après, je sais pas. Je crois que l'idée que on peut trouver toujours. En fait, je crois que ce qui m'inspire vraiment, c'est que le réel est finalement toujours plus surprenant et toujours plus passionnant que toutes les œuvres qu'on pourrait en faire. Et quelque part, je me dis que l'art, c'est pour citer, je crois que c'était chez Fluxus, je ne sais plus où c'était exactement cette phrase, qui est, c'était Filiou, Robert Filiou. Robert Filiou, oui, peut-être Filiou, qui disait « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. » Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me remue depuis toujours, quoi. C'est OK, on a cette vie, on n'est pas obligé de la subir dans son quotidien, on n'est pas obligé de l'appauvrir, on n'est pas obligé de la quantifier, on n'est pas obligé de la mettre en mesure, on n'est pas obligé de mettre des priorités de ce qui est le plus important, c'est le fric, ce qui est le plus important, mais au contraire, on peut essayer de la célébrer, on peut essayer de la dépasser en permanence en essayant de la remettre en jeu, précisément, quoi. Et c'est ce jeu avec le réel, tous les jours, avec ce qui suppose de terrible et de très beau, et de très beau, quoi. Et notre capacité infinie de tendresse et notre capacité infinie de colère et de regarder comment ces tensions-là se jouent et comment est-ce qu'on est capable de prendre conscience de nous-mêmes et d'avancer et de changer et de devenir un tout petit peu plus nous-mêmes un peu tous les jours, quoi. Ça, c'est très beau et je pense qu'il y a vraiment que ça qui m'inspire et qui m'émeut.
Et qui porte aussi ta créativité dans tous les sens, au sens positif, hein, je dis ça, que tu évoquais, que ce soit la mode, l'écriture, la poésie, la performance, ça te nourrit.
Oui, c'est ça. Et ça me nourrit. Et puis j'estime que si je le mets dehors, c'est que j'espère que ça va nourrir les autres aussi, parce que c'est aussi un don. C'est pas simplement un truc. Oui, ça flatte mon ego. C'est cool. J'ai un ego démesuré, mais j'ai appris à le mettre à la bonne place pour pas qu'il me bouffe ma vie et qu'il bouffe la vie des autres autour de moi, parce que sinon c'est l'enfer. Mais par contre, j'ai cette prétention de mettre les choses en dehors de moi et d'en faire des objets plus ou moins finis. Pour que les gens puissent les prendre et les bouffer et peut-être en retirer quelque chose. Donc, c'est, quelque part, c'est de la magie. Quelque part, c'est je crée des sorts et je crée des intentions comme ça et que je balance dans le monde. Et j'espère que les gens peuvent s'en saisir et que ça pourra les toucher. Et moi, je suis toujours extrêmement ému quand des gens sont touchés par mon travail, parce que j'ai vraiment l'impression que mon truc est tellement narcissique et tellement voilà, et que finalement tout le monde passe à côté. Et c'est un peu le cas, je crois que je vois que les gens passent globalement à côté de mon travail, et à juste raison. Mais comme tout le monde passe beaucoup à côté de mon travail, comme je continue, chaque fois finalement il y a quelques personnes qui arrivent en plus, etc. Et puis finalement je continue un peu à chaque bouquin. Alors des fois je perds des gens, et alors des fois j'en récupère d'autres. Donc c'est comme finalement me créer à chaque livre une sorte de petite famille Voilà, avec des gens qui sont le vieil oncle qui est toujours là, bourré au bout de la table, mais après, il y a les nouveaux venus, il y a les nouveaux bébés, il y a les nouvelles personnes et tout. Et donc, c'est comme une espèce de fête, une espèce de grande réunion de famille, comme ça. Et moi, j'ai fait un gâteau, quoi. Ouais, évidemment, c'est juste ça, quoi. J'espère que tout le monde va aimer le gâteau. Alors, j'aime beaucoup mon gâteau, il est très joli. Mais j'espère que tout le monde va le bouffer parce que le devenir de mon gâteau, il est d'être bouffé. Il n'est pas de rester dans un musée glacé derrière une vitrine, quoi.
Et sur quel gâteau est-ce que tu travailles actuellement maintenant que donc Malmö de Furieux vient de sortir, enfin est sorti en septembre à la Volte? Quels sont un peu tes gâteaux en préparation, quels que soient les domaines?
J'en ai pas, non, je fais des robes en ce moment et je fais beaucoup de couture, ça me passionne énormément, j'adore faire ça et, parce que justement pour moi il n'y a pas de profit dans cette histoire, il n'y a rien, c'est juste de la pratique parce que j'apprends beaucoup de choses et j'enseigne en ce moment beaucoup. Et j'enseigne la créativité, j'enseigne la poétique de mode, j'enseigne le rapport intime à la virtualité et aux narrations non linéaires, on va dire, et au sens large à la poésie, même si je suis complètement autodidacte. Moi, je veux dire, j'ai aucune prétention à être une académicienne, une académique, quoi que ce soit, parce que finalement, je n'ai récupéré que des fragments sur mon chemin et que j'ai mis en rapport les uns avec les autres et dont je découvre parfois avec lesquels je joue. Dont je découvre parfois des nouvelles traces que je mets en relation et tout. Et j'utilise mes cours comme de la matière expérimentale aussi, un peu. Et c'est ça que je fais. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fini un bouquin en ayant commencé un autre. Non, enfin, j'en ai commencé un autre dans mon cœur, mais j'ai quasiment pas mis de mots encore dessus. Et je ne sais même pas si je vais mettre des mots avant quelques années parce que je crois que là, j'ai découvert ce que ça veut dire que de vivre ailleurs que dans un livre et je crois que j'ai envie de faire des petits sablés au chocolat pour tout le monde.
Bon, bah, merci en tout cas Sabrina. On espère que pouvoir déguster ces petits sablés bientôt. Et je rappelle que Malmö de Furieux est donc paru aux éditions La Volte.
Merci beaucoup.